Pastoureaux et pastourelles, bien le bonjour. Vous avez longuement voyagé, n'est-ce pas? Je vous attendais avec impatience. Vite, prenez place et mettez-vous à l'aise. Je suis votre hôte, Gabriel Côté. Diplômé en études médiévales et en archivistique, j'aime partager ma passion au passant. Je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le temps, de revoir le Moyen-Âge à travers une loupe moderne, une loupe plus féministe. Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 28 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte Gabriel et mon Dieu que ça me fait plaisir de vous reparler enfin. Ce fut un long congé. Eh bien, pastourelles et pastoureaux, ben en fait, pour ceux qui l'ignoraient, ben je viens de déménager. Donc, j'ai déménagé à Montréal, comme je me souvenais le surnom qu'on lui donnait dans les années 1900, la petite Paris. Et ben on est fort bien installé, mais là, on est dans les boîtes depuis une semaine. On achève, ça arrive à une fin finalement. Mais bon, vous comprendrez que c'est toujours en processus. Donc, en fait, cet épisode-là va être un épisode extrêmement court qui, dans le fond, dans un premier temps, va inclure une petite mise à jour de ce qui va se passer pour, dans le fond, où je suis rendu dans mon déménagement pour l'épisode sur les Vikings. Également, les projets qui s'en viennent pour juillet. Et également, ben, j'ai un petit épisode pour vous. On va parler des Vikings, mais on va parler d'un aspect des Vikings. Donc, sans plus attendre, je vous démêle tout ça. Donc, bon, comme je viens de vous dire dans un premier temps, je viens de déménager, donc je suis encore un peu dans les boîtes. C'est sûr que ça a retardé le podcast, dans le sens où l'épisode sur les Vikings n'est pas encore commencé. En fait, c'est pas vrai. Il est commencé, il est amorcé, mais il n'est pas avancé. Et je vais être très honnête avec vous, je vais essayer de vous le sortir dans le mois de juillet, mais je sais pas si je vais être capable. Il y a plusieurs raisons pour ça, et la première, c'est que l'épisode sur les Vikings va être long. Ok, je vous mentirai pas, ça va être un gros épisode. Je vous prépare de quoi de solide. Vous le savez déjà, moi, les Vikings, c'est ma spécialité, c'est mon petit bijou, mon petit bonbon. Donc, même si j'ai promis d'être concis, et je serai concis, je l'ai promis, je vais tenir ma promesse, ça reste que beaucoup de choses à voir, parce que dans un premier temps, faut non seulement qu'on parle des Vikings, mais il faut aussi détruire le stéréotype qu'on a des Vikings. Vous le savez sûrement déjà, les Vikings ont une popularité phénoménale et grandissante dans les dernières décennies. Je vous parle des jeux vidéo, je vous parle des séries, hein, la série Vikings. Il y a plein d'idéaux qui sont, en fait, qui sont transmis dans les médias des Vikings qui sont erronés. Fait que dans un premier temps, faut, si je reprends le terme anglais, pardonnez-moi, debunk tout ça. Ben, ça, c'est une étape, et après, bien évidemment, il faut expliquer les Vikings, en fait, expliquer leur civilisation, leur migration, parce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est un Viking, hein? Les Vikings ne sont pas un peuple, donc vous le voyez, c'est assez chargé, et ça va me faire extrêmement plaisir. D'ailleurs, non seulement je vous promets des recherches, comme je le fais à l'habitude, basées sur des sources avec une méthodologie universitaire, mais à Montréal, en ce moment, il y a une exposition sur les Vikings à Pointe-à-Calière. Donc, pour ceux qui sont du coin, je vous invite à aller le voir. Moi, je vais aller le voir la semaine prochaine. Donc, je vais réenchérir l'épisode avec des sources archéologiques et donc la présentation du musée Pointe-à-Calière. Maintenant, aussi, là, c'est l'horaire du mois de juillet que je vais vous parler parce que c'est un petit peu plus compliqué. Là, moi, bon, je suis encore dans les boîtes, j'ai fini, je vous fais un petit épisode aujourd'hui. Mais le 21, en fait du 21 au 26 juillet, je vais être parti. Je pars en voyage à Chicago. J'ai très hâte, ça va être super le fun. Mais bien évidemment, vous le comprendrez, je ne serai pas en train de produire des épisodes durant cette période-là. Et si ça vous semble en réalité que le mois de juillet va être très tranquille, en fait plus silencieux, plus calme, détrompez-vous, c'est en ce moment on est dans un sprint. Et je vous explique pourquoi. Parce que pastourelles et pastoureaux, j'ai le plaisir de vous annoncer que le balado Ad Medievum Aeternum aura une collaboration avec le balado québécois Le Temps d'une bière. Vous vous en doutiez sûrement, j'avais déjà partagé certains de ces épisodes et je vous conseille fortement d'aller écouter ces épisodes. Il est extrêmement intéressant. Pierre, c'est un passionné de bière, c'est un passionné d'histoire et il a un faible pour l'histoire du Moyen-Âge. Vous le comprendrez, il est l'un des nôtres, un médiéviste. Donc j'ai extrêmement hâte à cette collaboration, pardonnez-moi. Ça va être super le fun, on a une super belle énergie et je suis sûr que vous allez adorer cette collaboration. C'est juste de garder en tête que si les épisodes ont l'impression de ralentir, en fait ils accélèrent. Parce que cette collaboration, on veut faire de quoi à long terme et il n'y a pas juste un épisode sur lequel je travaille présentement. Lui et moi, on travaille sur plusieurs épisodes à faire ensemble. Donc, juste terminer la parenthèse là-dessus, ça va peut-être sembler que le mois de juillet est plus relax, mais en réalité, accrochez-vous parce que dans le mois d'août, ça va barder. Donc, ça c'est fait, ça c'est annoncé, je suis vraiment content. Maintenant, juste vous dire qu'entre-temps, je suis maintenant très actif sur Instagram et sur TikTok. Évidemment, je vais toujours utiliser Facebook, mais si jamais vous voulez avoir des développements sur le mini-studio que je fais, là, je mets des parenthèses que vous voyez pas en ce moment, c'est pas réellement un studio, mais au moins un bureau que j'ai dans mon nouvel appartement où on va pouvoir enregistrer. J'ai maintenant mes deux micros, j'ai du nouveau matériel qui arrive lundi et j'en aurai d'autres qui arriveraient au courant de la semaine. Donc, vous comprendrez qu'ici, on n'arrête pas, hein? La Forge est en train de produire les meilleurs outils possibles et imaginables pour donner un contenu de qualité. Donc, j'ai vraiment hâte de tout essayer, ces petits bijoux dont j'ignore absolument tout, hein? Moi, je suis un médiéviste, tout ça, c'est de la sorcellerie. Mais bon, tout ça pour vous dire que je suis extrêmement excité, j'ai plein de projets pour vous. Et encore une fois, la collaboration avec Pierre, m'envoie aux anges, ça va être super le fun. Donc, plein de beaux projets pour cet été. Maintenant, d'ailleurs, parenthèse, vous me faites rappeler, je vais envoyer le lien Instagram sur ma page Facebook pour ceux qui l'ont pas vu encore, ça va être fait avec cet épisode. Maintenant, en fait, j'aimerais qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vous disais, Pastourez les Pastoureaux, que dans certaines sources, on mentionne que les Vikings, dans certains cas, avaient des épées magiques. Vous me diriez sûrement, ah bien voilà, ça c'est de la mythologie, ça peut rentrer dans les grandes lignes d'une personne qui s'est faite vaincre, hein, quelqu'un qui s'est fait battre peut donner comme excuse, oh mais ils avaient des épées magiques, ils ont fait affaire avec du poison. C'est quelque chose qu'on voit très récurrent, on agrandit l'armée ennemie pour faire en sorte que la défaite semble injuste en notre faveur et qu'en réalité c'est pas qu'on s'est fait battre. Eh bien, Pastoureux les Pastoureaux, si je vous disais que les archéologues ont été capables de prouver que certains Vikings avaient réellement des épées magiques. Intriguant, hein? Eh bien, sans plus attendre, allons-y. Ces épées, ces fameuses épées que je vous parle, qui auraient été des épées magiques, on parle ici des Ulfberht. Bon, commençons avec le mot Ulfberht. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, j'ai vu plusieurs traductions qui semblent dire ours guerrier, et je suis pas d'accord du tout avec ça pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, Ulf signifie en norrois loup, pas ours. Ours de mémoire en norrois, c'est Bjorn. Et Bert, ça vient du vieux anglais, vieux germain, norrois, qui veut dire en anglais bright, ou on pourrait même traduire à famous, donc en français brillant, glorieux. Donc, ça serait loup. J'ai comme le terme en français pour le traduire resplendissant, mais je sais pas si ça fait très viking, donc je l'ignore, mais vous savez, loup glorieux ou loup brillant, c'est pas très très beau en français, mais bon, vous m'en excuserez. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, Ulfberht, certaines sources semblent pointer que c'est un nom franc, mais bon, je veux juste vous dire que les francs, hein, de l'autre côté du Rhin, on a ensuite ce qui va devenir les tribus germaniques. En fait, ce sont des tribus germaniques, pardonnez-moi, c'est pas ce qui va devenir, c'est des tribus germaniques qui sont ultimement collées sur le Danemark, qui sont des Scandinaves, vous le savez déjà, et vous savez où je m'en viens. Les Germains et les Scandinaves ont une culture assez similaire. Donc c'est possible, mais on sait une chose, c'est que ces épées magiques, les Ulfberht, on en a trouvé environ 170 jusqu'à date, et ces 170 sont majoritairement dans le monde scandinave. Maintenant, ce nom-là, loup glorieux, loup brillant, qu'est-ce que c'est? Ben, on estime que c'est la signature d'un forgeron. En fait, on estime que c'est le nom, parce que c'était un nom franc, c'est probablement aussi un nom scandinave, qui, justement, en fait, le forgeron signait son épée. Mais avant de vous parler en profondeur de cette épée, il est important de comprendre un stéréotype. En fait, de détruire un stéréotype aurait été la bonne phrase, je m'en excuse. C'est que les Vikings étaient pas tous des bêtes armées jusqu'aux dents. En fait, très souvent, les Scandinaves, Vikings, utilisaient des armes franques, carolingiennes. En fait, les Francs étaient réputés pour faire d'excellentes épées, et les Vikings s'en donnaient encore joie de leur piller et de leur taper dessus avec leurs propres épées. Et c'est important à comprendre, parce que dans le monde, on a une grande image des Vikings comme étant vraiment armés jusqu'aux dents, mais la majorité des raids, on va le voir dans l'épisode chez les Vikings, en fait, les Francs sont déconcertés parce que la majorité des Scandinaves qu'ils voient ne sont même pas armés convenablement. Ils ont des haches, par exemple, mais c'est des haches pour bûcher du bois, donc des haches de bûcheron. C'est pas des haches de guerre. Donc, il y a plusieurs conceptions qu'il faut détruire, et il faut comprendre que c'est pas vrai que tous les Vikings étaient armés avec des armes extraordinaires. Cependant, certains nobles avaient des Ulfberht. Et les Ulfberht, c'est la crème de la crème en tant qu'épée. Mais qu'est-ce qui rend cette épée aussi incroyable et qu'est-ce qui lui donne cette caractéristique magique? En fait, dans leur composition, les Ulfberht étaient des épées faites très souvent en acier. Cependant, je dois le mentionner tout de suite, c'est pas toutes les Ulfberht qui étaient d'une grande qualité d'acier. En fait, certaines étaient même faites en fer. Donc, ce n'est pas toutes les Ulfberht qui étaient magiques. Mais, là, on vient à un point très important, c'est que ces épées-là étaient extrêmement dispendieuses. D'ailleurs, on en a juste retrouvé 170. Et c'est pas tous les Vikings qui avaient ça entre leurs mains. Hein. Visiblement, c'était des hommes très riches, souvent des nobles. Donc, là déjà, je veux qu'on comprenne quelque chose pour l'épisode sur les Vikings qui s'en vient. Quand on va parler d'armement, quand on va parler justement, parce qu'on va parler de la qualité des armures et de l'équipement des Vikings, la haute qualité de ce que fait un peu la grande renommée des Vikings, ça concerne une petite case d'individus, parce que la majorité du monde avait pratiquement rien pour se battre. En fait, j'ai très hâte de vous en parler, mais on parle des fois même pas d'armes. Hein. Des fois, on parle des gens qui se battent avec les rames du Knorr lui-même. Donc, les gens sont pas armés souvent. Et c'est ça qui va donner une espèce de réputation, je vais dire, de fou aux Vikings, c'est qu'ils se jetaient dans la mêlée, ils n'étaient même pas préparés en termes d'équipement pour le faire. Cependant, les nobles qui étaient très bien équipés, eux, étaient craints sur le champ de bataille. Et là, je vais faire une deuxième parenthèse, ce n'est pas tous les nobles qui avaient ces fameuses épées. Maintenant, je sais, excusez-moi, c'est un peu mélangeant, mais c'est important de que ça soit très très clair. Les Ulfberht, il y en a juste eu 170, ils n'étaient pas tous de cette qualité extraordinaire dont on va aborder maintenant. Mais sachez-le, lorsqu'on rencontrait une Ulfberht sur le champ de bataille, oui, elle était magique. Mais là, je vous fais languir depuis le début, pourquoi elle était magique? Pastoureux et pastoureux, l'acier qu'on retrouvait dans ces Ulfberht si exceptionnels était d'une telle qualité que pour simplement réatteindre ce niveau d'acier, il faut attendre la révolution industrielle anglaise au 18e siècle. Pastourelle et pastoureaux, ces Ulfberht étaient 1000 ans en avance technologiquement sur les épées traditionnelles d'Europe. Ils avaient réellement des épées magiques. Une Ulfberht de cette qualité pouvait briser n'importe quelle épée qu'elle entrechoquait, passer à travers des armures comme si c'était du beurre, une épée sur un champ de bataille qui semblait indestructible et tout ce qui se trouvait sur son chemin était pourfendu comme un couteau qui tranche du beurre. Une image terrifiante et redoutable sur un champ de bataille. Et c'est ça qui fait en sorte que les Vikings, dans certains cas, avaient réellement des épées magiques. Et là, pastourelles et pastoureaux, vous allez me dire, mais attends un instant, Gabriel, comment est-ce que c'est possible? C'est 1000 ans l'avance technologique. Et comment ça peut être un seul forgeron si c'est sur 300 ans? Et vous avez entièrement raison, dans un premier temps, on s'entend, c'est pas un forgeron qui aurait fait les Ulfberht, c'est peut-être un nom de famille, c'est possible, ou c'est un type d'épée qui était nommé au titre d'un forgeron. Donc, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est pas une personne qui a fait ces 170 épées-là, ça peut être un secret de famille qui est partagé de génération en génération. De toute façon, au Moyen-Âge, tu fais le métier de tes parents, donc tu es fermier, tu seras fermier, tu es fils de forgeron, tu seras forgeron. Cependant, il y a une explication scientifique à tout ça. En fait, la raison pourquoi la houle verte était si extraordinaire, c'est qu'en réalité, pour obtenir ce type d'acier, ça prend des fourneaux, à très haute température. Ce qu'on n'a pas en Europe médiévale à l'époque. Donc, un tel type d'acier ne peut pas être trouvé en Europe médiévale. Cependant, les Vikings étant des grands commerçants, en fait, ce type d'acier était en fait possible en Asie. Et donc, la théorie, en fait, c'est que cet acier aurait été importé d'Asie et forgé sur place. Donc, c'est ce qui aurait permis d'avoir un acier d'une telle qualité alors qu'on ne possédait pas les fourneaux à l'époque pour être capable de les créer. Donc, ayant cette espèce de perle, ces forgerons étaient capables de produire des épées absolument extraordinaires, et étant donné qu'on n'avait pas la technologie à l'époque pour les reproduire en Europe, eh bien, très certainement, ces épées étaient dévastatrices parce qu'il y avait absolument rien qui leur arrivait à la cheville. Et on se mentira pas, pastourait les pastoureaux, on se retrouve sur un champ de bataille, et il y a un viking avec une de ses fameuses houles vertes dans les mains, je m'élance, je donne un coup d'épée, et mon épée brise. Me voilà bien mal parti, je ne possède plus d'armes vraiment efficaces. Alors l'un d'eux vous s'essaie et c'est la même chose. Et là, tout le monde tente de l'arrêter. Et bien évidemment, l'épée casse parce que cet acier est tellement supérieur à ce qu'on a à notre époque que bien évidemment, c'est très stressant. On commence à se poser 3-4 questions. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça, en fait, cette histoire-là, je l'ai appris dans un cours absolument phénoménal. C'est un cours qui se donne à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça, pardon. C'est Marc Carrier qui donne le cours, en fait, ça s'appelle l'archéologie médiévale. C'est un cours extrêmement intéressant. Si vous êtes à l'Université de Montréal, vous cherchez un cours complémentaire, un cours médiéval, écoutez, je vous encourage tellement à aller prendre ce cours-là. J'ai appris plein de choses utiles qui vont d'ailleurs se retrouver dans le prochain épisode sur les Vikings. Et d'ailleurs, j'aimerais conclure sur deux choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui qui vont être extrêmement importantes à garder en tête dans le futur épisode les Vikings. En premier lieu, on a vu ensemble que les Vikings, en réalité, on a souvent cette image-là des guerriers armés jusqu'aux dents, mais qu'en réalité, les Vikings, souvent, ne sont pas si bien armés que ça. En fait, n'hésite pas, comme on le mentionnait au début de l'épisode, à prendre les armes, des Carolingiens qui faisaient d'excellentes épées. Donc, les Vikings n'avaient pas nécessairement un grand équipement, et c'est ça qu'on va voir dans le prochain épisode davantage, c'est comment ça va, et en fait, ça va aider à construire cette image un peu de guerrier fou, mais également qui vont démontrer un peu leur bravoure. Cependant, à l'inverse, ça veut pas dire que les Vikings n'avaient pas de bonnes armes. Ça veut pas dire que les Vikings n'étaient pas de bons forgerons. Loin de là, en fait, les Vikings avaient réussi à créer une épée qui était 1000 ans en avance sur la technologie de l'Europe médiévale. Et c'est absolument incroyable. Certes, vous allez me dire, oui, l'acier venait d'Asie cependant, c'est pas eux qui l'ont fait. Très vrai, mais c'est grâce à la technologie des Vikings, de la navigation, leur sens du commerce et leur technique de forge que ces derniers vont être capables de créer la houle verte. Donc, est-ce que c'est des barbares sans cervelle? Des ignores sans sagesse? Ou au contraire, de cruels opportunistes? Pastourez les pastoureaux, je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'au prochain épisode et pour vous aider dans cette réflexion, laissez-moi vous lire un passage des paroles d'Odin lui-même. C'est dans le vent qu'il faut abattre l'arbre, par bonne brise qu'il faut ramer en mer, dans l'obscurité qu'il faut bavarder avec la Vierge. Nombreux sont les yeux du jour. Un bateau est fait pour cingler, une targe pour protéger, une épée pour les coups et une Vierge pour les baisers. Est-ce que le chef du panthéon scandinave encourage d'agir de façon irréfléchie ou au contraire, il suggère que chaque chose ait sa place et son temps? Sur ce, pastourez les pastoureaux, merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à très très bientôt pour une été rocambolesque.
Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.